Alors, bonjour. Alors, comme Yo l'a dit dans sa prière, ce matin, on va faire 11 chapitres. Donc, il faut s'accrocher. On va terminer vers 14 heures. Résumons. Ce que j'ai essayé de faire, je vais essayer de me justifier pour savoir pourquoi j'ai choisi de faire 11 chapitres d'un seul coup. Parce que quand on m'a demandé de faire des interventions sur l'Apocalypse, j'ai préféré découper le livre, il me semblait de façon assez cohérente, selon les thèmes. Le premier chapitre est à part. Et le premier chapitre, si vous vous rappelez, c'était le premier jour, nous a révélé, nous a démontré Jésus comme étant le Seigneur, le Sauveur, et celui qui était parmi les chandeliers, donc parmi les églises. Deuxième jour, nous avons vu les sept églises qui représentent l'église universelle, et nous avons vu toutes les luttes de ces églises, tous ces combats dans tous les domaines, éthiques, doctrinaux, perte de premier amour, etc., etc. Troisième jour, ce dévoilement, qui est le sens même de l'Apocalypse, on a dévoilé une autre réalité, cette réalité qu'on peut dire invisible. Hein, je vous ai parlé de cette pomme coupée en deux, avec une feuille entre les deux. On voit, il y a une réalité visible, une réalité invisible. Et j'ai dit que les églises qui souffraient, qui luttaient, qui étaient persécutées, devaient se rappeler cette autre réalité. Alors pourquoi maintenant, du chapitre 6 jusqu'au chapitre 16? Parce que pour moi, je vais essayer de démontrer cela, il me semble qu'on a le même thème pendant 11 chapitres. Et ce thème, c'est le déroulement de l'histoire humaine, depuis, même avant le temps de Jésus, jusqu'à la fin du monde. Demain, les chapitres 17 à 20, c'est le jugement dernier. Et après-demain, 21 et 22, la gloire éternelle pour ceux qui sont comptés parmi les rachetés. Donc, j'ai divisé par thème. Ce qui fait que ce choix, forcément, m'amène à ne pas pouvoir expliquer en détail chaque élément de ces chapitres 6 à 16. Donc, il peut y avoir des déçus, mais comme j'ai déjà dit, si quelqu'un veut savoir, on peut réfléchir ensemble, mettez-vous à côté de moi à un certain moment, un repas, et puis on peut voir les choses ensemble. Mais il me semble qu'on fait tellement de mystères autour de l'Apocalypse, parfois on raconte tellement de bêtises, que le plus important, c'est de voir la structure de ce livre et de comprendre ce qu'il est en train de raconter, non pas simplement comme une sorte de sudoku éternel où on doit passer tout son temps à chercher le sens de tel ou tel truc, mais de voir les grandes lignes. Et les grandes lignes jusque-là, me semble, c'est assez clair. Maintenant, on rentre dans ces chapitres, comme j'ai dit, qui montrent le cours de l'histoire sous différents angles, avant le dénouement de l'histoire à partir du chapitre 17. Nous sommes déjà dans les derniers temps, je le pense, publiquement. Pourquoi j'ai dit que nous sommes dans les derniers temps? Je cite un seul verset, c'est dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, et le verset 18. Petits enfants, c'est déjà la dernière heure, même pas le dernier jour, c'est déjà la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant déjà plusieurs antéchrists, et par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Si vous regardez dans votre livret, page... Même pas. Page 10 et 11. Vous allez voir dans la structure de ce livre qu'à partir du chapitre 6, il y a 7 sceaux, avec un C, 7 trompettes, 7 signes ou visions, et 7 coupes de la colère de Dieu. Et ce que je vais, enfin, l'interprétation que je fais de l'Apocalypse, c'est de dire que ces 4 séries de 7 choses parlent de la même période d'histoire, vue d'angles différents. C'est-à-dire que quand on prend les 7 sceaux, on va parler du déroulement de l'histoire depuis le temps des prophètes et Jésus jusqu'à maintenant. Quand on prend les 7 trompettes, on va parler du déroulement de l'histoire du temps des prophètes par Jésus jusqu'à maintenant. Quand on prend les 7 signes, on va parler du temps des prophètes en passant par Jésus jusqu'à maintenant. Quand on parle des 7 coupes, on va parler du temps des prophètes en passant par Jésus jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que chaque fois, on a l'impression qu'on arrive au bout de la première série, on arrive à la septième, le septième saut, on dit, ça y est, c'est la fin. Et puis ça reprend. On arrive à la fin des 7 trompettes, on dit, ça y est, c'est la fin. Puis on reprend. On arrive à la fin des 7 visions, on dit, ça y est, maintenant, vraiment ça y est. Hein. 3, c'est encore un chiffre, la perfection, donc ça doit être vraiment à la fin. Et on reprend avec 7 coupes. Et ce n'est que lorsqu'on arrive à la fin de la 7e coupe que l'on change et on arrive à toute une partie du texte qui, pour moi, parle de la fin, vraiment, et du jugement dernier. C'est pour cela que j'avais essayé de passer en revue tous ces chapitres. Je vais choisir quelques textes clés, mais d'abord, il faut bien comprendre que nous parlons là du déroulement de l'histoire humaine. On parle du déroulement de l'histoire humaine vu du côté un peu militaire, politique, économique. Alors que quand on avait regardé les chapitres 2 et 3, on regardait l'histoire humaine à travers le peuple de Dieu, son Église. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe dans le monde où se trouve l'Église. Et le but de ces chapitres, c'est de comprendre quelque part les enjeux de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que aux infos de 20 heures, on vous dit toute la vérité? Ou est-ce qu'on vous cache quelque chose? Voilà. Ce n'est pas qu'on cache vraiment, mais c'est que le journal de 20 heures n'est pas outillé pour essayer de donner des interprétations bibliques. Claire Chazal ne sort pas la Bible pour dire, voilà, on va essayer de comprendre ce qui se passe au printemps arabe. Dans l'Apocalypse, chapitre 10, voilà, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On vous dit ce qui se passe. Je ne suis pas en train de dire qu'on vous cache des choses dans ce sens-là. Mais on ne sort pas les enjeux tels que nous, chrétiens, on cherche à les comprendre à partir de l'Apocalypse. Cela dit, faisons quand même un petit peu attention, parce que dans ces chapitres 6 à 16, on utilise largement le langage apocalyptique, comme on dit, c'est très symbolique. Il ne faut pas prendre les choses, disons, au pied de la lettre. Je vous donne un petit exemple, même si ce n'est pas dans l'Apocalypse. À un certain moment, dans un prophète, on dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de gens qui vont périr, une pluie de flèches va tomber sur une autre armée, à Armageddon, enfin, ok. Je me souviens, j'ai entendu un chrétien m'expliquait que c'est parce qu'à la fin du monde, après les guerres nucléaires et tout ça, il n'y aurait plus d'armes, donc il faut revenir aux flèches. Et c'est pour ça que la dernière guerre sera avec des flèches et des arcs. Bon, je n'étais pas convaincu de l'interprétation. Il faut voir que c'est symbolique. C'est le langage apocalyptique. Et pour comprendre le langage apocalyptique, il faut, et je répète, comprendre cela aussi à la lumière de l'Ancien Testament. Parce que sur 405 versets d'Apocalypse, il y a 285 allusions à l'Ancien Testament. Voilà, quelques-uns ne dormaient pas. Alors, quels sont les enjeux véritables? Ce matin, j'ai regardé Internet. Et je lis, un séisme de magnitude 5,9 a frappé hier la côte est des États-Unis. Des bâtiments ont dû être évacués dans le Capitole, qui abrite le Sénat et la Chambre des représentants, ainsi que le Pentagone, siège du département de la Défense. À New York, plusieurs bâtiments comme le Palais de justice et l'hôtel de ville ont été évacués, ainsi que la tour de contrôle de l'aéroport JFK. Hier encore, Tripoli, des centaines de rebelles en liesse se sont emparés du quartier général de Bab al-Azizia à Tripoli, dernier symbole du pouvoir sans partage que Muammar Kadhafi a exercé pendant près de 42 ans sur la Libye. Au cri de « Kadhafi est fini », les insurgés jonchés sur des pick-up ont pénétré dans l'immense complexe fortifié après avoir forcer l'une des principales grilles d'entrée. Une statue dorée représentant le guide, avec une G majuscule, a été abattue et décapitée. En Syrie, selon les Nations Unies, plus de 2200 personnes ont été tuées en Syrie cette année. La répression méthodique des manifestations a donné lieu à des condamnations internationales qui ne semblent pas avoir eu d'effet notable sur les dirigeants du pays. Ce langage-là n'est pas si différent de ce qu'on peut lire dans les chapitres 6 à 16 de l'Apocalypse. Autrement dit, qu'est-ce qu'on attend de l'histoire? Je ne sais pas si quelqu'un a visité le siège des Nations Unies à New York. Si quelqu'un a été là, qu'est-ce que vous avez vu gravé dans le marbre à l'entrée de ce palais? Tu n'as rien vu, ok. Rien vu du tout, voilà, c'est pas grave. Ok, alors gravé à l'entrée des Nations Unies, il y a un verset biblique. Il y a un verset biblique. Et ce verset, c'est Ésaïe 2,4. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, donc des socs, des charrues si on veut, et de leur lance des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ce verset d'Ésaïe est gravé dans le marbre ou granit, ou je ne sais pas quoi, à l'entrée de l'ONU. Est-ce qu'on le croit? Je remarque d'ailleurs que l'ONU n'a pas cité le début du verset, qui dit que Dieu sera le juge des nations. Ça, je remarque, et ça, c'est objectif, c'est le début du verset, n'y est pas. Mais autour de nous, poser la question aux gens, et même s'ils sont assez pessimistes par rapport à ce qui se passe dans le monde, la plupart pensent que, oui, un jour, we shall overcome. Oui, un jour, il y aura la paix. Oui, un jour, l'homme vivra en paix avec les autres. Quel est le parti politique? Il y a les présidentielles qui viennent, qui vont dire, si on est élu, la violence va continuer, les problèmes économiques vont continuer, la violence des banlieues va continuer, parce que c'est marqué dans l'Apocalypse. Tout le monde prétend apporter quelque part des réponses. Attention, le chrétien est appelé à chercher la paix. Le chrétien est appelé à être. Quel est le mot que François d'Assise disait? Des artisans de paix, des ouvriers de paix. Donc, même si on sait que la paix parfaite ne sera pas établie sur la terre, les chrétiens cherchent quand même, dans leur quartier, dans leur fac, dans leur entreprise, à apporter la paix. Mais sans illusion, parce qu'on sait qu'il y a des choses derrière. Et c'est Jésus qui le dit déjà. Je vais lire Marc 13, les versets 7 et 8. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Hein? Soulignez ça. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en différents lieux, même la côte est des États-Unis. Bon, c'est pas Jésus qui le dit, mais c'est moi qui ai apporté ça. Il y aura des famines. C'est très réaliste. Et quand on voit la première série de sept, que chaque fois, hein, rappelez-vous, sept, c'est le chiffre de la perfection, c'est la totalité, les six sceaux, dans un sens, il n'y a rien d'original par rapport à ces paroles de Jésus dans Marc 13. Parce qu'on voit, vous n'avez pas le temps de le regarder, mais si vous retenez ces choses, il y aura la guerre de conquête. Il y aura la guerre civile, il y aura la famine, il y aura la peste, il y aura la maladie, il y aura la souffrance, il y aura des martyrs. Et Dieu va intervenir, le chapitre 6 et le verset 17, car le grand jour de la colère est venu, qui peut subsister. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi tenir compte de l'Ancien Testament, parce que le jour de l'Éternel, ou le grand jour de l'Éternel, ou le jour du Seigneur, dans l'Ancien Testament, c'est le jour où Dieu va intervenir pour juger le monde et pour que chaque œil puisse le voir, que chaque genou soit abattu, que chaque bouche confesse qu'il est Seigneur, que dans Philippiens, en changeant Jésus-Christ le Seigneur, donc preuve de la divinité de Jésus. Donc, on retient son souffle. On retient son souffle. Et à la fin du septième sceau, chapitre 8, verset 1, quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je ne vais pas sortir la blague que quelqu'un m'a dit une fois. C'est la preuve qu'il n'y a pas de femme au ciel.
Amen.
Non, mais ne retenez surtout pas ça. Yo, tu effaces ça de l'enregistrement. Non, mais on est là. On dit, mais ça, c'est la fin. Ce silence. Et puis, on va reprendre avec une série de trompettes. Mais juste avant d'y arriver, et juste avant d'entendre le texte du chapitre 8 et 9, le chapitre 7 nous rassure. En tant que chrétien, car les rachetés sont décrites de deux façons. D'abord, les rachetés seront au complet. Il y en aura 144 000. C'est tout? C'est tout? Merci pour ta foi. Mais qui sait, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui aurait cru, il y a quelques années, que Luc Ferry aurait répondu à l'invitation des Gébieux, hein, pour venir débattre avec nous. Pensons grand. Hein, comme on a souvent dit avec Yo au comité étudiant, quelqu'un dit, nous on a un Gébieux qui marche bien, c'est un grand groupe. On est une trentaine. Et moi je dis toujours, c'est un petit groupe. C'est un petit groupe, hein, par rapport à la fac. Mais pourquoi 144 000? Pensez, chiffre symbolique. 12. Donc il y a 12 tribus. Multiplié par 10, 3 fois. Donc un 12 tribus, 3 et 10, comme le chiffre 7, ce sont des chiffres qui indiquent la perfection. À la différence des témoins de Jéhovah qui pensent qu'il y aura 144 000 personnes auprès du Seigneur et que les autres sauvés, selon eux, ne seront pas auprès du Seigneur parce qu'il y a numerus clausus, hein, que c'est comme en médecine. Non, je ne pense pas que ce soit ça. C'est plutôt que la totalité d'Israël sera sauvée. 12 fois 3 fois 10, ou 10, non, 12 fois 10 puissance 3, voilà. Je ne suis pas très très mathématicien. C'est ça? C'est 12 multiplié par 10 puissance 3, hein, c'est bien ça. J'ai toujours été fâché avec les maths, hein, mais enfin, vous comprenez. 12 fois 12, pas 1000. Et 1000, c'est 10 puissance 3. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. Voilà. Et quel est cet Israël? Moi, je pense que c'est le nouvel Israël, c'est-à-dire l'ensemble des sauvés, à la fois de ceux qui sont de racines juives. Et cette racine forme le tronc sur lequel les autres croyants sont greffés. Alors ça, c'est Romains chapitre 11. Hein. Et puis deuxièmement, non seulement la totalité, mais il y a une grande foule, une multitude que personne ne peut compter. Verset 9. Personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Et il criait, le salut est à notre Dieu. C'est la totalité des sauvés. Et quand on dit, mais qui sont-ils? Verset 14. L'ange dit, ou le vieillard, pardon, un des vieillards dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et je, personnellement, j'interprète cette grande tribulation comme étant tout ce que l'on lit entre les chapitres 6 et 16, donc tout ce qui se passe sur la terre. Ils ont lavé leur robe, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. S'il vous plaît, ne me posez pas la question comment le sang peut blanchir. On voit bien que c'est symbolique. Hein, ne me posez pas cette question-là. Mais on voit bien qu'on est pardonné par le sang de Jésus. Donc, on porte ces robes blanches qui symbolisent la pureté que nous avons. Et ils sont innombrables. Quelqu'un, l'autre jour, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, m'a dit, mais oui, on devient chrétien parce qu'on est né dans un pays chrétien. On serait né dans un autre pays, on ne serait pas chrétien. Bah, par exemple, en Chine. Et voilà, ça tombe mal comme explication. Parce que, d'après les chiffres, même conservateurs, il y aurait aujourd'hui 70 millions de chrétiens en Chine, 70 millions. Alors que, moi je me souviens, hein, vous êtes plus jeune que moi je me souviens de Mao Tse-tung, de la révolution culturelle, où il a pensé mettre fin à toute religion. Les missionnaires étaient partis, les églises étaient dispersées à la campagne, et les observateurs occidentaux disaient, mais c'est la fin du christianisme en Chine. Mao Tse-tung disparaît, le pays s'ouvre et on trouve que ce n'était pas le cas. Et que, et tenez-vous bien, depuis 40 ans, faites le calcul, depuis 40 ans en Chine, il y a en moyenne 5000 conversions par jour. C'est extraordinaire. Ce qui fait qu'il y a davantage de chrétiens chinois que la population de la France. Mais continuons à prier pour notre pays. Hein. J'ai l'idée l'autre jour. Hein. On a quand même progressé comme chrétien évangélique de 50 000 en 1950 à 460 000 aujourd'hui. Alors, que cette trajectoire continue. Alors, maintenant, je vais demander à mes lecteurs de venir et lire les chapitres 8 et 9.
Quand l'agneau brisa le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, on leur donna 7 trompettes. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il tenait un brûle-parfum en or. On lui remit beaucoup d'encens pour qu'il l'offre, avec les prières du peuple de Dieu, sur l'autel d'or situé devant le trône. La fumée de l'encens s'éleva de la main de l'ange devant Dieu, avec les prières du peuple de Dieu. Puis l'ange prit le brûle-parfum, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut aussitôt des coups de tonnerre, des bruits de voix, des éclairs et un tremblement de terre. Les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes se préparèrent alors à en sonner. Le premier ange sonna de la trompette. De la grêle et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre et le tiers des arbres furent brûlés, ainsi que toute l'herbe verte. Puis le deuxième ange sonna de la trompette. Une masse semblable à une grande montagne enflammée fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer se changea en sang. Le tiers de toutes les créatures vivant dans la mer mourut, et le tiers de tous les bateaux fut détruit. Puis le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile, qui brûlait comme un flambeau, tomba du ciel. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Amertume. Le tiers des eaux devint amer, et beaucoup de ceux qui en burent moururent, parce qu'elles étaient empoisonnées. Puis le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils perdirent un tiers de leur clarté. Un tiers du jour et un tiers de la nuit furent privés de lumière. Je regardai encore, et j'entendis un aigle qui volait très haut dans les airs proclamer d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, quand les 3 autres anges vont faire retentir le son de leur trompette. »
Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une voix qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre. Et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or, et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui des chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme des scorpions et c'est dans leur queue que se trouvait le pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici que 2 malheurs viennent encore après cela. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, « Relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. » Ainsi, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 millions. J'en entendis le nombre. Voici comment, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de leur bouche. En effet, le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemblait à des serpents, elles avaient des têtes et c'est par elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre, en bois, qui ne pouvaient ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol.
Donc les 7 trompettes, des chapitres 8 et 9 ressemblent beaucoup aux sept sceaux. Les quatre premiers concernent les choses matérielles, les deux suivants, il y a beaucoup plus les enjeux spirituels. Les quatre premières trompettes rappellent énormément les fléaux d'Égypte que vous avez connus l'autre soir. Les grands fléaux, la grêle, la mer qui devient comme du sang, l'obscurité, pour que le pharaon se repente, qu'il change d'avis. Le troisième parle de phénomènes qui concernent notre environnement. Ça, c'est les versets 10 et 11, où on parle du fait que l'eau devient imbuvable, comme de l'absinthe. Donc, ça, c'est une boisson construite à partir d'une plante, boisson très amère. Donc, il y a un fameux tableau au musée d'Orsay, le buveur d'absinthe, je ne sais pas si vous, des gars de gars, assez connu comme... comme peinture, parce que l'absinthe a fait beaucoup de ravages au 19e siècle, hein, comme boisson. Donc, toutes ces choses-là dont on parle, même en écologie, hein, sont faits de raccourcis, mais quand on voit le monde, quand on voit le problème de l'accès à l'eau, quand on voit le problème de tsunami, de choses comme ça, voilà, on est quand même sur une planète fragile. Mais au-delà de cela, comme je dis, les enjeux sont différents. Il y a aussi une origine démoniaque. Quand on regarde, par exemple, le début du chapitre 9, on dit que la clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et, donc à un ange, et elle ouvrit le puits de l'abîme, il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et donc, dans l'Apocalypse, quand on parle de l'abîme, on parle de la demeure, disons, de Satan, du diable. Et on voit que des sauterelles sortent. On va dire, pourquoi des sauterelles? Mais vous avez entendu verset 7 que des sauterelles ressemblent à des chevaux préparés pour le combat. Pourquoi? Parce qu'une tête de sauterelle ressemble en fait à une tête de cheval. Et même dans l'Ancien Testament, je pense au prophète Joël par exemple, les sauterelles représentent comme une grande armée, hein, une grande fléau de sauterelles qui arrive. C'est comme les têtes de chevaux, comme une grande armée qui arrive. Et le résultat, verset 11, c'est la destruction. Elles avaient sur elles comme roi, donc tous ces soldats, tous ces chevaux, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, qui veut dire destruction, et en grec Apollyon, qui veut dire destructeur. Et là, je pense que c'est très important pour notre interprétation, parce que que veut faire Satan? Que veut faire le diable? Il veut toujours détruire. Selon Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Pour détruire. Quel est le mot qui est utilisé pratiquement le plus souvent dans le Nouveau Testament pour nos progrès spirituels? C'est le mot édification. Donc édifier, ce qui veut dire construire. Donc Satan veut détruire, Dieu veut construire. Et nous, en tant que chrétiens, on est des constructeurs dans le travail de construction. C'est pour ça que c'est terrible chaque fois qu'il y a des divisions, qu'il y a dans une église, il y a des frères qui n'arrivent pas à s'entendre, parce que Dieu veut que l'on construise dans la durée. Je me souviens, il y a quelques années, j'habitais en face d'une maison, une belle demeure. Et un jour, on a vu une grue arriver, avec une grosse boule, et puis en une demi-heure, tout était détruit. Ils ont construit un grand immeuble à la place, mais ils ont mis des mois pour le faire. On peut détruire rapidement. Construire, c'est un travail dans la durée, et Dieu veut cela. Et donc voilà encore un enjeu. Dans la société, il y a des forces de destruction, de division. Et Dieu veut que les églises, que les chrétiens, que les GBU soient là pour construire de bonnes relations. Une chose qui nous console quand même, c'est le chapitre 9 et le verset 3. Il leur fut donné un pouvoir. Dieu reste maître quand même. Dieu reste maître. Et même si après, il y a des myriades de myriades, donc 200 millions de soldats qui se battent à la fin du chapitre 9, on doit toujours se rappeler, selon 1 Pierre 4, 12, cette expression, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. » Ce qui est extraordinaire, c'est que depuis 60 ans en France, on connaît la paix. Parce que depuis l'époque de Jésus, ça n'a jamais existé en Europe. Jamais, 60 ans sans guerre. C'est une grâce. C'est une grâce. On doit prier pour nos dirigeants, hein, que nous puissions vivre en paix. Je termine, je ferme la parenthèse, et j'arrive à la fin de ce chapitre 9, où nous lisons que, verset 20, les hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. Donc le but, la raison pour laquelle Dieu peut permettre qu'il y ait des choses qui arrivent dans notre monde, la raison pour laquelle il n'arrête pas toute la souffrance, c'est la même raison que pour le pharaon, avec tous les fléaux, c'est pour que les gens changent d'avis, pour qu'ils se repentent. Et c'est terrible, malgré tout ça, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre. Ils ne se repentirent pas de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Il y a beaucoup de vols autour de nous. En région parisienne, combien de gens sautent au-dessus la barrière du métro. Chaque fois que quelqu'un le fait à côté de moi, je me tourne vers lui et je dis, Dieu l'a vu, hein. J'ai eu 2-3 bonnes discussions avec des gens comme ça. Ils ne s'attendaient pas à ce que je dis. Bon, non, mais il faut qu'il y ait repentance. Maintenant, il faut qu'on avance. Je parlais de ce caractère cyclique. Le chapitre 10 et le verset 7 dit « Au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Donc vraiment, on dit que c'est fini, c'est la fin. Et au verset 15 du chapitre 11, on dit « Le septième ange sonna de la trompette. » Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis en notre Seigneur et son Christ, il régnera au siècle et des siècles. » Ça y est. Puis à partir du chapitre 12, il y a ces 7 signes, au chapitre 16, les 7 coupes. Donc, comme je dis, c'est cyclique. On revoit la même chose, comme un film en boucle, pour dire « Ça c'est l'histoire dans laquelle on se trouve. Ne vous inquiétez pas. Ne trouvez pas étrange. Ça, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, pour conclure ce matin, il ne reste pas beaucoup de minutes, donc je m'excuse pour Victor et Thibautée, mais je ne vais pas vous demander de lire parce qu'on n'a plus le temps. On va regarder, en fait, sur vos notes, c'est marqué 7 signes, c'est mal dit. En fait, c'est plutôt 7 épisodes, parce que ça ne correspond pas aux 7 signes dans sur le schéma. Donc, c'était, quand j'ai fait les notes, j'aurais dû dire 7 épisode ou cet événement que j'ai choisi pour donner l'essentiel des mots des événements qui vont se passer pour qu'on comprenne la suite. D'abord, au chapitre 12, il y a toute une partie qui parle d'une femme, d'un dragon et d'un enfant. Donc, je vais vous demander de le relire après, parce qu'on n'a pas le temps de le relire avant. Alors, de qui s'agit-il ? Il y a plusieurs personnages. D'abord, il y a la femme. Certains pensent qu'il s'agit d'Israël. Parce que quand même, il y a la naissance d'un enfant promis, donc le Messie. Il y a 12 tribus qui correspondent aux 12 étoiles. D'autres voient Marie, parce que c'est par elle, la Vierge Marie, que le Messie est né. Et on voit assez souvent, dans des églises catholiques, des représentations de la Vierge avec une couronne avec 12 étoiles sur la tête, hein, donc pour représenter ce qui se passe là. D'autres pensent, avec raison d'ailleurs, qu'il s'agit de l'Église, parce qu'à la fin de ce chapitre, cette femme est comme l'Église, l'épouse encore du Seigneur. Je pense qu'on peut le voir comme étant le peuple de Dieu au travers de l'histoire. Ensuite, il y a un dragon. Pas le prendre forcément au pied de la lettre. Hein. Il y a des livres américains qui parlent de la fin des temps où il y a littéralement des dragons qui arrivent, etc. Bon, je ne pense pas que l'on doive le voir dans ce sens-là. Mais un dragon, c'est une bête féroce qu'on appelle aussi, chapitre 12, verset 9, le grand dragon, le serpent ancien, donc référence à la Genèse, appelé le diable et Satan, tout ça, ça veut dire il s'oppose au peuple de Dieu, il séduit toute la terre. Et qu'est-ce qui se passe à ces personnages ? D'abord, le dragon, verset 4, veut dévorer l'enfant dès sa naissance. Je pense qu'on peut voir, par exemple, une allusion au massacre des innocents, où Satan a essayé, en passant par le roi Hérode, de détruire Jésus dès sa naissance. Après, on voit que cet enfant va paître les nations avec une verge de fer. Alors, ça, c'est une allusion au psaume 2, psaume messianique. Et on peut aussi voir son règne. Au verset 10, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu. Et puis, cette femme qui se transforme en quelque sorte en église, verset 6, la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. C'est Dieu qui s'occupe de l'église, qui traverse le désert de l'histoire, on peut dire. Et j'aime bien, puisque je suis dans Paris, et mon église est dans Paris, parfois, donc, au moment du culte, je dis, voilà, l'Élysée, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, tout ça va disparaître. Qu'est-ce qui va rester à Paris ? Ben, les chrétiens, les églises, éternellement, auprès du Seigneur. C'est ça qui est, c'est voir l'enjeu. Qu'est-ce qui est vraiment important ? On devrait, par exemple, Claire Chazal, à l'actualité de 20h, devrait dire, bon, elle n'a pas accès aux chiffres, mais elle devrait dire, par exemple, aujourd'hui, en France, 273 personnes sont converties et ont la vie éternelle. Parce que ça, c'est quelque chose d'éternel et de vraiment important. Mais bon, elle n'a pas accès aux chiffres. Et puis, le verset 11 nous dit, et on est vainqueur avec Jésus, non seulement éternellement, mais ici déjà sur la terre, hein, je reviens au thème que nous avons, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, on peut dire, on a le pardon, on n'a pas honte de Jésus, et on accepte qu'il vaut mieux mourir que de renoncer à sa foi. Et comme ça, Satan ne peut rien faire. Parce qu'il pense que les gens vont dire, ah, s'ils vont perdre leur vie, ils vont renoncer. On dit, mais non, on continue. Parce que de toute façon, le meilleur est toujours devant nous. Donc ça, c'est la femme, le dragon et l'enfant. La guerre dans le ciel, la guerre contre la femme et l'enfant, bon, on va un peu vite. Maintenant, il y a, au chapitre 13, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. De qui s'agit-il? Je vais dire un mot. Je suis conscient qu'on est presque à l'heure, mais bon. Là, au chapitre 13, on part de la trinité diabolique. Parce qu'il y a le dragon, la première bête et la deuxième bête. En fait, par la suite, dans l'Apocalypse, on appelle la deuxième bête le faux prophète. Mais c'est la même chose. Et il y en a qui montent de la mer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il singe, si on veut, il essaie de se passer pour l'agneau. Parce que nous lisons, je ne vais pas noter le verset, voilà, verset 3. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie. Il remplit d'admiration la terre entière, suivit la bête. Donc, il essaie de faire comme Jésus a fait, en mourant et en ressuscitant. Donc, il essaie de dire, ben, moi aussi. Et puis la bête qui monte de la terre, c'est l'adjoint terrible de la bête qui monte de la mer. Pourquoi? Parce que lui, il vient, il ajoute deux choses pour que l'on s'attache à cette bête qui monte de la mer, donc le faux prophète. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il fait, comme dit, miracle. Par exemple, au verset 14, « Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. » Et donc, il fait en sorte que cette bête parle, enfin, etc. Et on y voit normalement, là, le rôle de la religion qui vient conforter les fausses doctrines, des fausses idées. Si on peut mettre la religion avec, pensez à l'islam par exemple, on est tellement dans la religion qu'on se sent un peu piégé, on est convaincu que c'est la vérité. Et puis en plus, on vient ajouter à ça le pouvoir économique où on demande à tous de porter une marque, et personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Ça veut dire qu'en quelque sorte, on essaie de marginaliser les chrétiens pour qu'ils puissent plus vivre dans ce monde. Et c'est ici la sagesse, que celui qui a d'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est 666. On peut chercher différentes explications de cela, mais pour moi, la plus plausible, c'est que, comme on a toujours dit, 7, c'est le chiffre de la perfection, et la bête pense y arriver, mais tombe en dessous. C'est pas 777, c'est 666. Il n'y est pas. Malgré tout, il n'y est pas. Mais, et là, on va préparer la suite que nous allons voir demain, au chapitre 14, deux grandes vérités pendant cette période de du déroulement de l'histoire humaine. D'abord, l'agneau et ses rachetés. Donc, il chantait un cantique nouveau. On parle des 144 000 qui peuvent chanter ce cantique parce qu'on le comprend. Et cet agneau, partout où il va, ils suivent. Parce qu'ils ont été rachetés. Donc, c'est une autre réalité, mais on annonce déjà, et on arrivera demain à cela, verset 8, un second ange suivit en disant, Elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Et comme on va voir demain, Babylone représente en quelque sorte la société depuis tout temps qui essaie de se bâtir sans Dieu. Donc, je sais qu'on n'a pas eu le temps de regarder tout dans le détail. Ce n'était pas possible. Autrement, on aurait fait des dizaines et dizaines d'interventions. On ne pouvait pas. Mais retenez surtout ceci, qu'il y a un déroulement de l'histoire, que Dieu est le maître, que Satan veut détruire, Dieu veut construire. Il le fait avec son peuple. Et le jugement arrivera par lequel Dieu visiblement sera reconnu comme Dieu à la fin de l'histoire. Et c'est ça qu'on va voir demain.